Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
La petite poussette de Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. La petite poussette par Hans Christian Andersen. Il y avait une fois une femme qui aurait bien voulu avoir un tout petit enfant, mais ne savait pas du tout comment elle pourrait se le procurer. Elle alla donc trouver une vieille sorcière et lui dit « J'aurais grande envie d'avoir un petit enfant. Ne veux-tu pas me dire où je pourrais m'en procurer un ?»« Si, nous allons bien en venir à bout, » dit la sorcière. « Tiens, voilà un grain d'orge. Il n'est pas du tout de l'espèce qui pousse dans le champ du paysan ou qu'on donne à manger aux poules. Mets-le dans un pot et tu verras. »« Merci, » dit la femme. Et elle donna 12 shillings à la sorcière, rentra chez elle, planta le grain d'orge, et aussitôt poussa une grande fleur superbe, qui ressemblait tout à fait à une tulipe. Mais les pétales se refermaient, serrés comme si elle était encore en bouton. « C'est une belle fleur, » dit la femme. Et elle l'embrassa sur les beaux pétales rouges et jaunes. Mais au moment même de ce baiser, la fleur s'ouvrit avec un grand bruit d'explosion. C'était vraiment une tulipe, ainsi qu'il apparut alors, mais au milieu d'elle, assise sur le siège vert, était une toute petite fille, mignonne et gentille, qui n'était pas plus haute qu'un pouce, et qui, pour cette raison, fut appelée Poussette. Elle eut pour berceau une coque de noix laquée, des pétales bleus de violette furent ses matelas, et des pétales de rose son édredon. C'est là qu'elle dormait la nuit, et le jour elle jouait sur la table, où la femme avait posé une assiette entourée d'une couronne de fleurs dont les tiges trempaient dans l'eau. Un grand pétale de tulipe y flottait, où Poussette pouvait se tenir et naviguer d'un bord à l'autre de l'assiette. Elle avait pour ramée 2 crins de cheval blanc. C'était charmant. Et elle savait aussi chanter, et son chant était doux et gentil, tel qu'on n'avait jamais entendu le pareil ici. Une nuit qu'elle était couchée dans son délicieux lit, arriva une vilaine grenouille qui sauta par la fenêtre. Il y avait un carreau cassé. La grenouille était laide, grosse et mouillée. Elle sauta sur la table où Poussette était couchée et dormait sous l'édredon de feuilles de rose rouge. « Ce serait une femme parfaite pour mon fils, » se dit la grenouille, et elle s'empara de la coque de noix où Poussette dormait et, à travers le carreau, sauta dans le jardin avec elle. Tout près de là, coulait un grand et large ruisseau, mais le bord en était bourbeux et marécageux. C'est là qu'habitait la grenouille avec son fils. Ouh, lui aussi était laid et vilain. Il ressemblait tout à fait à sa mère. Quax, quax, briquekekex. C'est tout ce qu'il sut dire quand il vit la jolie fille dans la coque de noix. Ne parle pas si haut. Tu vas la réveiller, dit la vieille grenouille. Elle pourrait encore nous échapper, car elle est légère comme duvet de cygne. Nous la mettrons sur une des larges feuilles de nénuphar. Ce sera pour elle, si petite et légère, comme une île. De là, elle ne pourra pas s'enfuir, pendant que nous préparerons la belle chambre sous la vase où vous habiterez. Dans le ruisseau poussaient beaucoup de nénuphars dont les larges feuilles vertes semblaient flotter à la surface de l'eau. La feuille, la plus éloignée, était aussi la plus grande de toutes. C'est là que la vieille grenouille nagea et plaça la coque de noix avec Poussette. La pauvre petite mignonne se réveilla de très bonne heure le matin, et lorsqu'elle vit où elle était, elle se mit à pleurer amèrement. Car il y avait de l'eau de tous les côtés autour de la grande feuille verte. Elle ne pouvait pas du tout aller à terre. La vieille grenouille était au fond de la vase et ornait la chambre avec des roseaux et des boutons jaunes de nénuphar. Il fallait que ce fût tout à fait élégant pour sa nouvelle bru, et avec son vilain fils, elle nagea vers la feuille où était Poucette, afin de prendre à eux deux le beau lit et l'installer dans la chambre de l'épousée, avant qu'elle y vînt elle-même. La vieille grenouille s'inclina profondément dans l'eau devant elle et dit « Voilà mon fils, il sera ton mari, et vous aurez un délicieux logement au fond de la vase. Quax, quax, briquekex !» C'est tout ce que le fils put dire. Et ils prirent le gentil petit lit et partirent avec à la nage. Et Poucette resta toute seule et pleura sur la feuille verte, car elle ne voulait pas demeurer chez la vilaine grenouille, ni avoir son fils si laid pour mari. Les petits poissons qui nageaient dans l'eau avaient bien vu la grenouille et entendu ce qu'elle avait dit, et ils sortirent la tête de l'eau. Ils voulaient voir la petite fille. Aussitôt qu'ils l'eurent vue, ils la trouvèrent charmante, et cela leur fit de la peine qu'elle dût descendre chez la vilaine grenouille. Non, il ne le fallait pas. Ils s'assemblèrent sous l'eau, tout autour de la tige qui tenait la feuille, et mordillèrent la tige, si bien que la feuille descendit le cours du ruisseau, emportant Poucette loin, très loin, où la grenouille ne pouvait pas aller. Poucette navigua, passa devant beaucoup d'endroits, et les petits oiseaux perchés sur les arbustes la voyaient et chantaient « Quelle gentille demoiselle !» La feuille avec elle s'éloigna de plus en plus. C'est ainsi que Poucette partit pour l'étranger. Un joli petit papillon blanc ne cessait de voler autour d'elle et finit par se poser sur la feuille, car Poucette lui plaisait et elle était bien contente. Car la grenouille ne pouvait plus l'atteindre et le lieu où elle naviguait était très agréable. Le soleil luisait sur l'eau, c'était comme de l'or magnifique. Et elle défit sa ceinture, en attacha un bout au papillon et fixa l'autre bout dans la feuille. Et ainsi la feuille prit une course beaucoup plus rapide, et elle avec, puisqu'elle était dessus. À ce moment arriva en volant un grand hanneton. Il l'aperçut et aussitôt saisit dans ses pinces la taille grêle de la petite, qu'il emporta dans un arbre. Mais la feuille verte continua de descendre le courant et le papillon de voler avec, car il était attaché à la feuille et ne pouvait pas s'en libérer. Dieu ! Comme Poucette fut effrayée lorsque le hanneton s'envola dans l'arbre avec elle, mais surtout elle fut chagrinée pour le pauvre papillon blanc qu'elle avait attaché à la feuille. S'il ne parvenait pas à se libérer, il allait mourir de faim. Mais c'était bien égal au hanneton. Avec elle, il se plaça sur la plus grande feuille verte de l'arbre, lui donna le pollen des fleurs à manger et lui dit qu'elle était très gentille, bien qu'elle ne ressemblât pas du tout à un hanneton. Ensuite, tous les autres hannetons qui habitaient l'arbre vinrent lui rendre visite. Ils regardèrent Poucette, et les demoiselles hannetons allongèrent leurs antennes et dirent « Elle n'a tout de même que deux pattes, c'est misérable, et elle n'a pas d'antennes. Elle a la taille trop mince, fi ! Elle ressemble à l'espèce humaine, qu'elle est laide !» Et pourtant le hanneton qui l'avait prise la trouvait très gentille, mais comme tous les autres disaient qu'elle était vilaine, il finit par le croire aussi, et ne voulut plus la voir. Elle pouvait s'en aller où elle voulait. On vola en bas de l'arbre avec elle, et on la posa sur une grande marguerite. Là, elle pleura parce qu'elle était si laide que les hannetons ne voulaient pas d'elle, et elle était pourtant l'être le plus délicieux que l'on pût imaginer, délicat et pur comme le plus beau pétale de rose. La preuve, Poucette vécut toute seule tout l'été dans la grande forêt. Elle se tressa un lit de brins d'herbe et l'accrocha sous une grande feuille de patience, en sorte qu'il ne pouvait pleuvoir sur elle. Elle récoltait le pollen des fleurs et s'en nourrissait, et elle buvait la rosée qui était tous les matins sur les feuilles. Ainsi passèrent l'été et l'automne, mais vint alors l'hiver, le froid et long hiver. Tous les oiseaux qui lui avaient chanté de belles chansons s'en allèrent, les arbres et les fleurs se fanèrent. La grande feuille de patience sous laquelle elle avait habité se recroquevilla et devint un pédoncule jaune fané, et elle eut terriblement froid, car ses vêtements étaient déchirés. Et elle-même était si petite et si frêle, la pauvre Poucette, qu'elle devait mourir de froid. Il se mit à neiger, et chaque flocon de neige qui tombait sur elle était comme un paquet de neige qu'on jetterait sur nous, car nous sommes grands, et elle n'avait qu'un pouce. Alors elle s'enveloppa dans une feuille fanée, mais cela ne pouvait pas la réchauffer, elle tremblait de froid. À l'orée de la forêt, où elle était alors parvenue, s'étendait un grand champ de blé, mais le blé n'y était plus depuis longtemps, Seul le chaume sec et nu se dressait sur la terre gelée. C'était pour elle comme une forêt qu'elle parcourait. Oh, comme elle tremblait de froid! Elle arriva ainsi à la porte de la souris des champs. C'était un petit trou au pied des fétus de paille. La souris avait là sa bonne demeure tiède, toute sa chambre pleine de grains, cuisine et salle à manger. La pauvre poussette se plaça contre la porte, comme toute pauvre mendiante, et demanda un petit morceau de grain d'orge, car depuis 2 jours elle n'avait rien eu du tout à manger. « Pauvre petite !» dit la souris, car c'était vraiment une bonne vieille souris des champs. « Entre dans ma chambre chaude, manger avec moi !» Puis, comme Poussette lui plut, elle dit « Tu peux bien rester chez moi cet hiver, mais il faudra tenir ma chambre tout à fait propre et me conter des histoires, car je les aime beaucoup. » Et Poussette fit ce que demandait la bonne vieille souris, et vécut parfaitement. « Nous aurons bientôt une visite, » dit la souris des champs. « Mon voisin a l'habitude de venir me voir tous les jours de la semaine. Il se tient enfermé encore plus que moi. Il a de grandes salles, et il porte une délicieuse pelisse de velours noir. Si tu pouvais l'avoir pour mari, tu n'aurais besoin de rien. Mais il ne voit pas clair. Il faudra lui conter les plus belles histoires que tu saches. » Mais Poussette ne se souciait pas d'avoir le voisin qui était une taupe. Il vint rendre visite dans sa pelisse de velours noir. Il était riche et instruit, dit la souris des champs. Son appartement était aussi 20 fois plus grand que celui de la souris, et il était plein de science. Mais il ne pouvait supporter le soleil et les belles fleurs. Il en disait du mal, car il ne les avait jamais vues. Poussette dut chanter, et elle chanta « Anneton vol-vol » et « Le moine va au champ ». Et la taupe devint amoureuse d'elle à cause de sa belle voix, mais ne dit rien, car c'était une personne circonspecte. Elle s'était récemment construit un long corridor dans la terre, de sa demeure à celle de la souris, et elle permit à la souris et à Poussette de s'y promener tant qu'elle voudrait. Mais elle leur dit de ne pas avoir peur de l'oiseau mort qui gisait dans le corridor. C'était un oiseau entier avec bec et plumes, qui sûrement était mort depuis peu, au commencement de l'hiver, et avait été enterré juste à l'endroit où elle avait fait son corridor. La taupe prit dans sa bouche un morceau de mèche, car cela brille comme du feu dans l'obscurité, et elle marcha devant eux et les éclaira dans le long couloir sombre. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où gisait l'oiseau mort, la taupe dressa en l'air son large nez et heurta le plafond, et cela fit un grand trou par lequel la lumière put briller. Sur le sol gisait une hirondelle morte. Ses jolies ailes plaquées contre son corps, les pattes et la tête cachées sous les plumes. Le pauvre oiseau était évidemment mort de froid. Poussette en eut de la peine. Elle aimait tant tous les petits oiseaux qui avaient si joliment chanté et gazouillé pour elle tout l'été. Mais la taupe donna un coup de ses courtes pattes à l'hirondelle et dit « Elle ne piaillera plus. Ça doit être lamentable de naître, petit oiseau. Dieu merci, aucun de mes enfants ne sera ainsi. Un oiseau pareil n'a rien d'autre pour lui que son quivivite et doit mourir de faim l'hiver. » « Oui, vous pouvez le dire, vous qui êtes prévoyant, » dit la souris, « qu'à l'oiseau pour tout son quivivite. Quand vient l'hiver, il doit avoir faim et gelé. Mais ce quivivite est tout de même une grande chose. » Poussette ne dit rien, mais lorsque les deux autres eurent tourné le dos à l'oiseau, elle se baissa, écarta les plumes qui recouvraient la tête de l'hirondelle et la baisa sur ses yeux clos. « C'est peut-être celle qui a si joliment chanté pour moi cet été, » se dit-elle. « Quelle joie il m'a procuré, le bel oiseau !» Puis la taupe boucha le trou par où le jour luisait, et les dames l'accompagnèrent à sa demeure. Mais la nuit, Poussette ne put dormir. Elle se leva de son lit et tressa une belle couverture de paille dont elle alla envelopper l'oiseau mort, et elle mit du coton moelleux qu'elle avait trouvé chez la taupe autour du corps de l'oiseau afin qu'il pût être au chaud dans la terre froide. « Adieu, beau petit oiseau, » dit-elle, « adieu, et merci pour tes délicieux chants de cet été. » Lorsque tous les arbres étaient verts et que le soleil brillait si chaud au-dessus de nous. Et elle posa sa tête sur la poitrine de l'oiseau, mais fut aussitôt très effrayée, car il y avait comme des battements à l'intérieur. C'était le cœur de l'oiseau. L'oiseau n'était pas mort, il était engourdi, et la chaleur l'avait réanimé. À l'automne, toutes les hirondelles s'envolent vers les pays chauds, mais il en est qui s'attardent et elles ont tellement froid qu'elles tombent comme mortes. Elles restent où elles sont tombées, et la froide neige les recouvre. Poucette était toute tremblante de frayeur, car l'oiseau était fort grand, à côté d'elle qui n'avait qu'un pouce. Mais elle rassembla son courage, pressa davantage le coton autour de la pauvre hirondelle, et alla chercher une feuille de menthe crépue, qu'elle avait eue elle-même comme couverture, et la passa sur la tête de l'oiseau. La nuit suivante, elle se glissa de nouveau vers lui, et il était alors tout à fait vivant, mais très faible. Il ne put ouvrir qu'un instant ses yeux et voir Poucette, qui était là, un morceau de mèche à la main, car elle n'avait pas d'autre lumière. « Sois remerciée, gentil enfant, lui dit l'hirondelle malade. J'ai été délicieusement réchauffée. Bientôt, j'aurai repris des forces, et de nouveau je pourrai voler aux chauds rayons du soleil. « Oh ! Dit Poucette, il fait froid dehors, il neige et il gèle. Reste dans ton lit chaud, je te soignerai. » Elle apporta de l'eau dans un pétale de fleurs à l'hirondelle, qui but, et raconta comment elle s'était blessée l'aile à une ronce et n'avait pas pu voler aussi vite que les autres hirondelles, qui étaient parties loin, très loin, vers les pays chauds. Elle avait fini par tomber à terre. Ensuite, elle ne se rappelait plus rien et ne savait pas du tout comment elle était venue là. Tout l'hiver, elle y restera. Et Poucette fut bonne avec elle. Elle aima beaucoup. Ni la taupe, ni la souris des champs ne s'en doutèrent, car elle ne pouvait sentir la pauvre malheureuse hirondelle. Dès que vint le printemps et que le soleil réchauffa la terre, l'hirondelle dit adieu à Poucette, qui ouvrit le trou fait par la taupe au-dessus. Le soleil rayonnait, superbe, au-dessus d'elle. Et l'hirondelle demanda à Poucette si elle ne voulait pas venir avec elle, car elle pourrait se mettre sur son dos. Elles s'envoleraient ensemble loin dans la forêt verte. Mais Poucette savait que cela ferait de la peine à la vieille souris des champs si elle la quittait ainsi. « Non, je ne peux pas, » dit Poucette. « Adieu, adieu, bonne et gentille fille, » dit l'hirondelle en s'envolant au soleil. Poucette la suivit des yeux, et ses yeux se mouillèrent, car elle aimait beaucoup la pauvre hirondelle. « Gvivite, gvivite !» chanta l'oiseau. Et il s'éloigna dans la forêt verte. Poucette était triste. Elle n'eut pas la permission de sortir au chaud soleil. Le blé qui était semé sur le champ au-dessus de la maison de la souris poussa, d'ailleurs haut en l'air. C'était une forêt drue pour la pauvre petite fille qui n'avait qu'un pouce. « Cet été, tu vas coudre ton costume, » lui dit la souris. Car sa voisine, l'ennuyeuse taupe à la pelisse de velours noir, l'avait demandé en mariage. « Tu auras de la laine et du linge. Tu auras de quoi t'asseoir et te coucher. » Quand tu seras la femme de la taupe. » Poucette dut filer à la quenouille, et la souris embaucha 4 araignées pour filer et tisser nuit et jour. Tous les soirs, la taupe venait en visite et parlait toujours de la fin de l'été, quand le soleil serait beaucoup moins chaud, car pour le moment il brûlait la terre qui était comme une pierre. Quand l'été serait fini, auraient lieu les noces avec Poucette, mais la petite n'était pas contente, car elle n'aimait pas du tout l'ennuyeuse taupe. Tous les matins, quand le soleil se levait, et tous les soirs, quand il se couchait, elle se glissait dehors, à la porte, et si le vent écartait les sommets des tiges, de façon qu'elle pouvait voir le ciel bleu, elle se disait que c'était clair et beau, là dehors, et elle désirait bien vivement revoir sa chère hirondelle, mais elle ne reviendrait jamais. Elle volait sûrement très loin dans la forêt verte. Lorsque l'automne arriva, Poucette eut sa corbeille toute prête. « Dans 4 semaines, ce sera la noce, » lui dit la souris. Et Poucette pleura, et dit qu'elle ne voulait pas de l'ennuyeuse taupe. « Ta 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 !» dit la souris. « Ne regimbe pas, sans quoi je te mords avec ma dent blanche. C'est un excellent mari que tu auras. La reine elle-même n'a pas une pelisse de velours noir pareille. Il a cuisine et cave. Remercie Dieu de l'avoir. » La noce devait donc avoir lieu. La taupe était venue déjà pour prendre Poucette, qui devait habiter avec son mari au profond de la terre, ne jamais sortir au chaud soleil qu'il ne pouvait pas supporter. La pauvre enfant était tout affligée. Elle voulait dire adieu au beau soleil, que du moins, chez la souris, il lui avait été permis de regarder de la porte. « Adieu, lumineux soleil, » dit-elle, les bras tendus en l'air, et elle fit quelques pas hors de la demeure de la souris, car le blé avait été coupé. Il ne restait plus que le chaume sec. « Adieu, adieu, » dit-elle, et elle entoura de ses bras une petite fleur rouge qui était là. Salue de ma part la petite hirondelle si tu la vois. Gvivite, gvivite, dit-on à ce moment au-dessus de sa tête. Elle regarda en l'air. C'était la petite hirondelle qui passait justement. Aussitôt qu'elle vit Poucette, elle fut ravie. La fillette lui raconta qu'elle ne voulait pas du tout avoir pour mari la vilaine taupe et qu'elle habiterait ainsi au fond de la terre où le soleil ne brillerait jamais. De cela, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. « Voilà le froid hiver qui vient, » dit la petite hirondelle. « Je m'envole au loin vers les pays chauds. Veux-tu venir avec moi ? Tu peux te mettre sur mon dos. Tu n'as qu'à t'attacher fortement avec ta ceinture et nous nous envolerons loin de la vilaine taupe et de sa sombre demeure, bien loin par-dessus les montagnes jusqu'au pays chaud, où le soleil luit, plus beau qu'ici, où c'est toujours l'été avec des fleurs exquises. Viens voler avec moi, chère petite Poucette, qui m'a sauvé la vie, lorsque je gisais gelée dans le sombre caveau de la terre. « Oui, j'irai avec toi, » dit Poucette, qui se mit sur le dos de l'oiseau, les pieds sur ses ailes étendues, et attacha fortement sa ceinture à une des plus grosses plumes. Et ainsi l'hirondelle s'éleva haut dans l'air, au-dessus de la forêt et au-dessus de la mer, haut au-dessus des grandes montagnes toujours couvertes de neige. Et Poucette eut froid dans l'air glacé, mais elle se recroquevilla sous les plumes chaudes de l'oiseau et passa seulement sa petite tête pour voir toute la splendeur étalée sous elle. Et elles arrivèrent au pays chaud. Le soleil y brillait, beaucoup plus lumineux qu'ici. Le ciel était deux fois plus élevé. Et dans des fossés et sur des haies poussaient de délicieux raisins blancs et bleus. Dans les forêts pendaient des citrons et des oranges. Les myrtes et la menthe crépue embaumaient. Et sur la route couraient de délicieux enfants qui jouaient avec de grands papillons diaprés. Mais l'hirondelle vola plus loin encore, et ce fut de plus en plus beau. Sous de magnifiques arbres verts, au bord de la mer bleue se trouvait un château de marbre d'une blancheur éclatante, fort ancien. Les ceps de vignes enlaçaient les hautes colonnes. Tout en haut étaient de nombreux nids d'hirondelles, et dans l'un d'eux habitait celle qui portait Poucette. « Voilà ma maison, » dit l'hirondelle, « mais si tu veux te chercher une des superbes fleurs qui poussent en bas, je t'y poserai, et tu seras aussi bien que tu peux le désirer. »« C'est parfait, » dit Poucette, et ses petites mains battirent. Il y avait, par terre, une grande colonne de marbre blanc qui était tombée et s'était cassée en trois morceaux, entre lesquels poussaient les plus belles fleurs blanches. L'hirondelle y vola et déposa Poucette sur l'un des larges pétales. Mais quelle surprise fut celle de la petite fille! Un petit homme était assis au milieu de la fleur, aussi blanc et transparent que s'il avait été de verre. Il avait sur la tête une belle couronne d'or et aux épaules de si jolies ailes claires. Et il n'était pas plus grand que Poucette. C'était l'ange de la fleur. Dans chaque fleur habitait un pareil ange, homme ou femme, mais celui-là était le roi de tous. « Oh, qu'il est beau !» chuchota Poucette à l'hirondelle. Le petit prince fut très effrayé par l'hirondelle, car elle était un énorme oiseau à côté de lui, qui était si petit et menu, mais lorsqu'il vit Poucette, il fut enchanté. C'était la plus belle fille qu'il eût encore jamais vue. Aussi prit-il sur sa tête sa couronne d'or qu'il plaça sur la sienne, lui demanda comment elle s'appelait et si elle voulait être sa femme. Elle serait ainsi la reine de toutes les fleurs. Oh, c'était là un mari bien différent du fils de la grenouille et de la taupe à la pelisse de velours noir. Elle dit donc oui au charmant prince, et de chaque fleur arriva une dame ou un jeune homme, si gentil que c'était un plaisir des yeux. Chacun apportait un cadeau à Poucette, mais le meilleur de tous fut un couple de belles ailes d'une grande mouche blanche. Elles furent accrochées au dos de Poucette, qui put ainsi voler d'une fleur à l'autre. C'était bien agréable, et la petite hirondelle était là-haut, dans son nid, et chantait du mieux qu'elle pouvait, mais en son cœur elle était affligée, car elle aimait beaucoup Poucette et aurait voulu ne jamais s'en séparer. « Tu ne t'appelleras pas Poucette, » lui dit l'ange de la fleur. « C'est un vilain nom, et tu es si belle. Nous t'appellerons Maya. »« Adieu, adieu, » dit la petite hirondelle, qui s'envola de nouveau, quittant les pays chauds pour aller très loin, jusqu'en Danemark. C'est là qu'elle avait un nid au-dessus de la fenêtre où habite l'homme qui sait compter des contes. Elle lui a chanté son kvivit, kvivit, et c'est de là que nous tenons toute l'histoire. Fin de La Petite Poussette par Hans Christian Andersen. Enregistré par Nathalie Mussard.
La femme de mer par Rémy de Gaumont. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Enregistré par Alexis Brooks DeVita. La femme de mer par Rémy de Gaumont. Un jeune garçon qui était en voyage arriva un jour à un fjord, petit golfe, dont le rivage était du sable le plus fin qu'on puisse voir, en même temps que l'eau de mer était admirablement belle et claire. Le jeune garçon s'assit à l'ombre d'un rocher, tira son sac de provisions et se mit à manger. Tout à coup apparurent, sortant de la mer, trois jeunes filles qui montèrent jusque sur l'air, ôtèrent leurs manteaux et allèrent se baigner. Elles jurèrent un moment dans l'eau, se revêtirent et disparurent. Le lendemain, le garçon retourna à la même place, et tout se passa comme la veille. Le troisième jour, il rêvait encore, mais tandis que les trois jeunes filles étaient dans l'eau, il rampa vers leur habit, prit ceux de la plus belle et les cacha. Lorsqu'elles eurent fini de se baigner, deux d'entre elles se revêtirent et disparurent. Mais la troisième, ne voyant pas ses habits, dit au garçon, « Mais tu m'as pris mes habits, rends-les-moi, et je te ferai avoir tout ce que tu voudras. » « Je ne veux rien qu'une chose, » répondit le garçon, « c'est que tu deviennes ma femme. À cette condition, je te rendrai tes habits. » Elle commença par dire que c'était impossible. Mais le garçon insista si bien qu'après avoir beaucoup pleuré, elle finit par promettre. Lorsqu'ils furent d'accord, ils allèrent ensemble auprès des parents du garçon. La fille fut baptisée, on lui donna un nom chrétien, puis ils se marièrent, vécurent heureux, et eurent un fils. Lorsque ce fils fut assez grand pour pouvoir marcher, il entra un jour dans la cabane à côté de la maison. Là, se trouvait un coffre qu'il ouvrit et dans lequel il aperçut de beaux habits qu'il n'avait jamais vus. Le lendemain, pendant que le père était à la chasse, l'enfant raconta à sa mère ce qu'il avait trouvé dans le coffre. Celle-ci alla voir et reconnut que c'étaient les habits qu'elle avait portés autrefois lorsqu'elle était sortie de la mer. Alors, elle les mit, retourna à la mer et disparut. À son retour, le père, ne voyant plus sa femme, demanda à l'enfant ce qu'elle était devenue. « Ma mère est entrée dans la mer, » dit l'enfant. Alors, le père comprit qu'elle avait retrouvé ses vieux habits de femme de mer qu'il avait cachés autrefois, et qu'elle était retournée d'où elle était venue. Il en fut bien triste, et alla demander conseil à une bonne fée. « As-tu des enfants ?» Oui, un seul. « Eh bien, » dit la fée, « ne sois pas inquiet. Ta femme reviendra dans la maison trois fois, mais si tu ne peux pas la faire rester la troisième fois, elle n'y rentrera plus jamais. » Fin de La femme de mer par Rémy de Gaumont. Enregistré par Alexis Brooks DeVita. alexisbrooksdevita.com.
Gâteau par Jules Lemaître, ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Yoshka. Gâteau par Jules Lemaître. On avait donné à deux enfants un gros gâteau et un petit en leur disant: partagée. Les deux enfants étaient une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans. « Tiens, dit la petite fille, prends ce joli petit gâteau, moi je mangerai ce vilain gros. »« J'aime mieux le vilain gros, dit le petit garçon. »« Mais puisqu'il est vilain, oui, mais il est gros. » Fin de gâteau par Jules Lemaître.
Fête nocturne ou assemblée de sorciers par Charles Nodier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alexis Brooks DeVita. Fête nocturne ou assemblée de sorciers par Charles Nodier. Enregistré par Alexis Brooks DeVita. AlexisBrooksDeVita.com. Propriétaire d'une terre sur les confins de la Dordogne et de la Garonne, j'avais 25 ans que je ne la connaissais pas encore, et ce ne fut qu'à force d'importunité que je me décidai à quitter la Salon de la capitale pour y aller. Je n'appris point sans surprise que je possédais une vigne où l'on voyait de thème à autre, et toujours à minuit, une foule d'esprits qui prenaient diverses formes, tels que hommes, femmes, chevaux, boucs, etc. Un soir, assis tranquillement à faire de la musique, on frappe avec violence à la porte. Je donne ordre qu'on ouvre. Un malheureux paysan se précipite dans la maison et tombe presque sans vie. Ses cheveux hérissés, son œil hagard, tout son être annonce l'effroi. Je lui prodigue des secours, mais il bat la campagne. Il ne répond à mes questions que par ces mots. Ils sont là, voyez-les, ils approchent, cette chèvre, ce chat. Je me décidai à le laisser tranquille et attendre que sa raison fût revenue pour l'interroger. Dès que je le crus en état de me répondre, je le questionnai sur la cause de sa frayeur. « Ah, monsieur, me dit-il, le récit que j'ai à vous faire est épouvantable. Je tremble encore seulement d'y penser. » J'avais été voir un de mes parents. Nous nous sommes amusés à boire, et tellement à boire, il était 11 heures lorsque nous nous sommes quittés. Il m'est venu dans l'idée de faire le grand tour pour ne pas passer devant la vigne du diable, mais, ayant une pointe de vin, je me suis dit, quand tout l'enfer serait là, je n'aurais pas peur. Et aussitôt, me voilà, passant hardiment mon chemin. Mais, arrivé en face à la grande haie de la maudite vigne, j'ai entendu de grands éclats de rire et j'ai aperçu une assemblée si nombreuse que j'ai été effrayé. Cela a été bien pire lorsque j'ai vu que la haie disparaissait, qu'il n'y avait plus qu'une vaste plaine illuminée de 100 000 cierges ou moins, et qui éclairait un bal complet. Plus loin, une multitude de monde était à table et mangeait avec un appétit dévorant. Cependant, je ne connaissais plus mon chemin, et je ne savais de quel côté tourner, lorsque plusieurs personnes ont quitté la table à la danse et sont venues m'accoster. « Que veux-tu, l'ami? Veux-tu être des nôtres? Viens-tu signer ton pacte? Nous allons faire venir notre seigneur le diable. » À ces mots, je me suis troublé. Néanmoins, j'ai répondu « Non, messieurs, je suis bon chrétien, et je ne veux point me donner à Satan. Tu as tort, nous sommes tous de bons enfants. Tu ne te repentiras point d'être avec nous. Oublie les sottises de ton curé et renie ta religion. Oh, mon Dieu, je me suis écrié en faisant le signe de la croix. Venez à mon secours. » À ces mots, les bougies se sont éteintes. Le tonnerre a grandi. Tout a disparu, et je n'ai plus vu, au travers des éclairs, qu'une foule de chauves-souris et de chatoins qui voltigeoient autour de moi en poussant des cris épouvantables. À peine avais-je la force de respirer lorsque j'ai entendu une voix qui me criait « Ne crains rien, chrétien. Tout l'enfer ne peut prévaloir contre toi. » Ces paroles m'ont rendu la force et je me suis mis à courir jusqu'ici. « Ton aventure est extraordinaire, lui dis-je, que je ferai par moi-même. En effet, quelque temps après, je partis un vendredi par un beau clair de lune, bien résolu de me rendre au sabbat. Mes vœux furent accomplis, et en arrivant dans la vigne du diable, je trouvai une fête complète, de femmes magnifiques, des élégants, de feux d'artifice, des joutes, des danses. Tout était réuni pour embellir ce spectacle. Je restai stupéfait lorsqu'une dame d'une beauté ravissante paraît comme Vénus s'avança vers moi. « Soyez les bienvenus, me dit-elle. Nous vous attendions et vous manquiez à la fête. Notre maître et seigneur vous prouve le cas particulier qu'il fait de votre personne, puisque, contre son ordinaire, il vient au-devant vous. » Un très bel homme, alors, m'adressa la parole. « Vous êtes, dit-il, après m'avoir salué très poliment, au milieu d'une assemblée de sorciers. Mais, comme vous voyez, ils ne sont pas effrayants. Entrez hardiment, aucun mal ne vous sera fait. » Et aussitôt je fus introduit dans une vaste enceinte où tout respirait la joie et la gaieté. Des rafraîchissements circulaient à la ronde, et j'étais surpris de voir qu'on ne m'en ferait point. « Je devine votre pensée, me dit le seigneur et maître, mais avant de vous faire partager nos repas, il faut que nous ayons une petite explication. Comme je vous l'ai déjà dit, toutes les personnes assemblées ici sont des sorciers ou des sorcières, et par conséquent l'honneur de m'appartenir. Si vous eussiez mangé ou bu la moindre des choses, vous auriez été à moi de plein droit. Mais nous ne voulons surprendre personne. La bonne foi règle toutes nos actions. Maintenant que vous êtes instruits, si vous voulez signer votre pacte, il ne tient qu'à vous. Établissez vos conditions. Je pense que nous serons bientôt d'accord. Vraiment, monsieur le diable, lui dis-je, vous n'êtes pas aussi diable comme on le croit parmi nous, mais je ne puis accepter vos offres. Content de mon sort ici-bas, je ne désire point changer de condition. Faites vos réflexions, répondit-il d'une voix sévère, et vous nous trouverez ici tous les premiers vendredis de chaque mois. Comme il achevait ces mots, une cloche fit entendre les sons de l'Angélus. Aussitôt, toute la troupe poussa des hurlements affreux. Le diable prit une forme horrible qui me glaça d'effroi. Cette femme, qui m'avait paru si belle, devint une vilaine chatte noire. Tous les autres personnages furent changés en chauves-souris, chats rouins et autres animaux nocturnes. Ils m'effrayèrent véritablement lorsque, transformés ainsi, ils m'entourèrent en menaçant de me dévorer. J'étais dans des ténèbres épaisses, je voyais autour de moi des abîmes prêts à m'engloutir, ce qui m'empêchait de faire un seul pas pour m'éloigner. La terre vomissait une quantité de soufre, de bitume, et exhalait une odeur fétide et insupportable. J'étais oppressé, j'étouffais, la sueur découlait de tout mon corps, et ma faiblesse était si grande que je me voyais prêt de succomber. Cependant, les sons argentins de la cloche annonçaient les premiers rayons de l'aurore. Selon ma coutume, je récitai mon Angélus. Aussitôt, les cris, les hurlements redoublèrent, le diable s'agita de mi-façon, la foudre éclata de tous côtés, et je me trouvai au milieu de torrents de flammes, entouré de reptiles malfaisants. Ma prière finie, je fais le signe de la croix. Aussitôt, la terre s'entr'ouvre et engloutit tous les monstres qui m'avaient épouvanté. Le jour me rendit les forces et le courage. Je me retirai et ne fus plus tenté d'aller voir les fêtes nocturnes. Fin de Fêtes nocturnes ou Assemblée des sorciers par Charles Nodier.
L'ombre par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Praevis. L'ombre par Hans Christian Andersen. Traduit par David Soldi. C'est terrible comme le soleil brûle dans les pays chauds. Les gens ne deviennent bruns comme de l'acajou, et dans les plus chauds, noirs comme des nègres. Un savant était arrivé de son pays froid dans un de ces pays chauds où il pensait pouvoir se promener comme chez lui, mais bientôt il fut persuadé du contraire. Comme les gens raisonnables, il fut obligé de s'enfermer toute la journée chez lui. Les maisons avaient l'air de dormir ou d'être abandonnées. Du matin jusqu'au soir, le soleil brillait entre les hautes maisons, le long de la petite rue où il restait. En vérité, c'était insupportable. Le savant des pays froids, qui était jeune encore, se croyait dans une fournaise ardente. Il maigrit de plus en plus et son ombre se rétrécit considérablement. Le soleil lui portait préjudice. Il ne revenait véritablement à la vie qu'après le coucher du soleil. Que d'agréments alors! Dès qu'on allumait la bougie dans la chambre, l'ombre s'étendait sur tout le mur, même sur une partie du plafond. Elle s'étendait le plus possible pour reprendre ses forces. Le savant, de son côté, sortait sur le balcon pour s'étendre, et à mesure que les étoiles apparaissaient sur le beau ciel, il se sentait peu à peu revivre. Bientôt, il se montrait du monde sur chaque balcon de la rue. Dans les pays chauds, chaque fenêtre a un balcon, car il faut de l'air même aux gens de couleur acajou. Comme tout s'animait alors, les cordonniers, les tailleurs, tout le monde se répandait dans la rue. On y voyait des tables, des chaises et mille lumières. L'un parlait, l'autre chantait, on se promenait, les voitures roulaient, les ânes passaient, en faisant retentir leurs sonnettes, on mordait porté en terre au bruit des chants sacrés. Les gamins lançaient des pétards, les cloches des églises carillonnaient, en un mot, la rue était bien animée. Une seule maison, celle qui se trouvait en face du savant, ne donnait aucun signe de vie. Cependant, quelqu'un y demeurait, car des fleurs admirables s'épanouissaient sur le balcon, et pour cela, il fallait absolument que quelqu'un les arrosât. Aussi, le soir, la porte s'ouvrait, mais il faisait noir. Une douce musique sortait de l'intérieur. Le savant trouvait cette musique sans pareille, mais peut-être était-ce en effet de son imagination, car il trouvait toutes choses sans pareille dans les pays chauds, si le soleil n'y eût brillé toujours. Son propriétaire lui dit qu'il ignorait absolument le nom et l'état du locataire d'en face. On ne voyait jamais personne dans cette maison, et quant à la musique, il la déclarait horriblement ennuyeuse. C'est quelqu'un qui étudie continuellement le même morceau sans pouvoir l'apprendre, dit-il. Quelle persévérance! Une nuit, le savant se réveilla et crut voir une lueur bizarre sur le balcon de son voisin. Toutes les fleurs brillaient comme des flammes, et au milieu d'elles se tenait debout une grande demoiselle svelte et charmante qui brillait autant que les fleurs. Cette forte lumière blessa les yeux de notre homme. Il se leva tout d'un coup et alla écarter le rideau de la fenêtre pour regarder la maison d'en face. Tout avait disparu, seulement la porte qui donnait sur le balcon était entr'ouverte, et la musique résonnait toujours. Il fallait qu'il y eût quelque sorcellerie là-dessous. Qui donc habitait là? Où était donc l'entrée? De le rez-de-chaussée se composait de boutiques. Nulle part on ne voyait de corridor ni d'escalier conduisant aux étages supérieurs. Un soir, le savant était assis sur son balcon, et derrière lui, dans la chambre, brûlait une bougie. Il était donc tout naturel que son ombre se dessinât sur le mur du voisin. Elle se montrait entre les fleurs et répétait tous les mouvements du savant. « Je crois que mon ombre est la seule chose qui vive là, en face. » Comme elle était gentiment assise entre les fleurs, près de la porte entr'ouverte. Elle devrait être assez fine pour entrer, regarder ce qui se passe, et venir me le raconter. « Va donc, » cria-t-il en plaisantant, « montre-moi que tu sers à quelque chose. Allons, entre. » Puis il fit un signe de tête à l'ombre, et l'ombre répéta ce signe. « Va, mais ne reste pas trop longtemps. » À ces mots, le savant se leva, et l'ombre fit comme lui. Il se tourna, et l'ombre se tourna aussi. Quelqu'un qui eût fait attention aurait pu voir que l'ombre entrait par la porte entr'ouverte chez le voisin, Au moment où le savant entrait lui-même dans sa chambre en tirant derrière lui le grand rideau. Le lendemain, lorsque ce dernier sortit pour prendre son café et lire les journaux, arrivé sous l'éclat du soleil, il s'écria tout à coup: Qu'est-ce donc? Où est mon ombre? Serait-elle en effet partie hier au soir et pas encore revenue? C'est excessivement fâcheux. Grand était son dépit. Non pas parce que l'ombre avait disparu, mais parce qu'il savait l'histoire d'un homme sans ombre, comme tout le monde dans les pays froids, et si lui, revenu un jour, racontait sa propre histoire, on l'accuserait de plagiat sans qu'il le méritât le moins du monde. Il résolut donc de n'en parler à personne, et bien il fit. Le soir, il retourna sur son balcon, après avoir bien posé la lumière derrière lui pour faire revenir son ombre. Mais il eut beau se faire grand, petit, répéter « Hum, l'ombre n'apparut pas. Cette séparation le tourmenta beaucoup, mais dans les pays chauds, tout repousse bien vite, et au bout de 8 jours, il remarqua à son grand plaisir qu'une nouvelle ombre sortait de ses jambes lorsqu'il se promenait au soleil. La racine de l'ancienne était probablement restée. Au bout de 3 semaines, il avait une ombre convenable qui, dans son voyage au pays du Nord, crut tellement que notre savant aurait pu se contenter de la moitié. Revenu dans son pays, il composa plusieurs livres sur ce que le monde a de vrai, de beau et de bon, et bien des années s'écoulèrent ainsi. Un soir, qu'il était assis dans sa chambre, quelqu'un frappa à la porte. « Entrez, » dit-il, mais personne n'entra. Il alla ouvrir et vit un homme très grand et très maigre, du reste, parfaitement habillé et de l'air le plus comme il faut. « À qui ai-je l'honneur de parler ?» demanda le savant. « Je me doutais bien que vous ne me reconnaîtriez pas, » répondit l'homme délicat. « Voyez-vous ? C'est que je suis devenu corps, j'ai de la chair et je porte des habits. Ne reconnaissez-vous pas votre ancienne ombre? Vous avez cru que je ne reviendrais plus? J'ai eu bien de la chance depuis que je vous ai quitté. Je suis riche et j'ai par conséquent les moyens de me racheter. » Puis il fit sonner un tas de breloques attachées à la lourde chaîne d'or de sa montre, et ses doigts, couverts de diamants, lancèrent 1000 éclairs. « Je n'en reviens pas, » dit le savant. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Certes, cela est extraordinaire, en effet, mais vous-même n'êtes-vous pas un homme extraordinaire, et moi, vous le savez bien, j'ai suivi vos traces dès votre enfance. Me trouvant mûr pour faire seul mon chemin dans le monde, vous m'y avez lancé, et j'ai parfaitement réussi. » J'ai eu le désir de vous voir avant votre mort et, en même temps, de visiter ma patrie. Vous savez, on aime toujours sa patrie. Sachant que vous avez une autre ombre, je vous demanderai maintenant si je dois quelque chose à elle ou à vous. Parlez, s'il vous plaît. « C'est donc véritablement toi, » répondit le savant. « C'est extraordinaire. Jamais je n'aurais cru que mon ancienne ombre ne reviendrait sous la forme d'un homme. « Dites ce que je dois, » reprit l'ombre, « je n'aime pas les dettes. »« De quelle dette parles-tu? Tu me vois tout heureux de ta chance. Assieds-toi, vieil ami, et raconte-moi tout ce qui s'est passé. Que voyais-tu chez le voisin, dans les pays chauds? » « Je vous le raconterai, mais à une condition, c'est de ne jamais dire à personne ici, dans la ville, que j'ai été votre ombre. J'ai l'intention de me marier, mais me voyant, me permettent de nourrir une famille et au-delà. Sois tranquille, je ne dirai à personne qui tu es. Voici maman, je te le promets. Un homme est un homme, et une parole est une ombre. » À ces mots, l'ombre s'assit, et soit par orgueil, soit pour se l'attacher, elle posa ses pieds chaussés de bottines vernies sur le bras de la nouvelle ombre, qui gisait au pied de son maître comme un caniche. Ceci se tint bien tranquille pour écouter, impatiente d'apprendre comment elle pourrait s'affranchir et devenir son propre maître. Devinez un peu qui demeurait dans la chambre de voisin, commença la première ombre. C'était une personne charmante, c'était la poésie. J'y suis resté pendant 3 semaines, et ce temps a valu pour moi 3000 ans. J'ai lu tous les poèmes possibles, je les connais parfaitement. Par eux, j'ai tout vu et je sais tout. La poésie, s'écria le savant. Oui, c'est vrai, elle n'est souvent qu'en ermite au milieu des grandes villes. Je l'ai vue un instant, mais le sommeil pesait sur mes yeux. Elle brillait sur le balcon comme une aurore boréale. Voyons, continue. Une fois entré par la porte entr'ouverte, je me trouvai dans l'antichambre. Il faisait à peu près noir, mais j'aperçus devant moi une file immense de chambres dont les portes étaient ouvertes à deux battants. La lumière s'y faisait peu à peu, et sans les précautions que je pris, j'aurais été foudroyé par les rayons avant d'arriver à la demoiselle. Enfant, que voyais-tu? Demanda le savant. Je voyais tout, comme je vous le disais tout à l'heure. Certes, ce n'est pas par fierté, mais comme homme libre et avec mes connaissances, sans parler de ma position et de ma fortune, je désire que vous ne me tutoyiez pas. Je vous demande pardon. C'est une ancienne habitude. Vous avez parfaitement raison, cela ne m'arrivera plus. Enfant, que voyez-vous? Tout, j'ai tout vu et je sais tout. Quel aspect vous offrait les salles de l'intérieur? Ressemblait-elle à une fraîche forêt, à une sainte église ou au ciel étoilé? Elle ressemblait à tout cela. Il est vrai que je ne les traversais pas, mais de l'antichambre, je vis tout. Mes enfants, les dieux de l'Antiquité passaient-ils par ces grandes salles? Les anciens héros y combattaient-ils? Est-ce que des enfants charmants y jouaient et racontaient leurs rêves? Je vous répète encore une fois que j'ai tout vu. En entrant, vous ne seriez pas devenu un homme, mais moi, j'en devins un. J'ai appris à connaître ma véritable nature, mes talents et ma parenté avec la poésie. Lorsque j'étais encore avec vous, je n'y réfléchissais jamais, mais vous devez vous rappeler comme je grandissais toujours au lever et au coucher du soleil. Au clair de la lune, je paraissais presque plus distant que vous-même, seulement je ne comprenais pas alors ma véritable nature. C'est dans l'antichambre que j'ai appris à la connaître. J'étais mûr au moment où vous m'avez lancé dans le monde, mais vous partiez tout à coup en me laissant presque nu. J'eus bientôt honte de me trouver dans un pareil état. J'avais besoin de vêtements, de bottes, de tout ce vernis qui fait l'homme. Je me cachai. Je vous le dis sans crainte, persuadé que vous ne l'emprunteriez pas. Je me cachai sous les jupons d'une marchande de gâteaux qui ignorait ma valeur. Le soir seulement, je sortais pour courir les rues au clair de la lune. Je montais et je descendais le long des murs, regardant par les grandes fenêtres dans les salons et par les lucarnes dans les mansardes. Je vis par où personne ne pouvait voir et ce que personne ne pouvait voir ni ne devait voir. Pour vous dire la vérité, ce monde est bien vil. Et sans se préjuger qu'un homme signifie quelque chose, je ne me soucierais pas de l'être. J'ai vu des choses inimaginables chez les femmes, chez les hommes, chez les parents et les enfants charmants. J'ai vu ce que personne ne devait savoir, mais ce que tous brûlaient de savoir, le mal de prochain. Si j'avais écrit un journal, on l'aurait dévoré. Mais je préférais écrire aux personnes elles-mêmes. Et dans toutes les villes où je passais, c'était une frayeur inouïe. On me craignait et on me chérissait. Les professeurs me firent professeur. Les tailleurs me donnèrent des habits. J'en ai en quantité. Le directeur de la monnaie me frappait de belles pièces. Les femmes me trouvaient gentil garçon. C'est ainsi que je suis devenu ce que je suis. Là-dessus, je vous présente mes respects. Voici ma carte. Je demeure du côté du soleil, et en temps de pluie, vous me trouverez toujours chez moi. À ces mots, l'ombre partit. C'est cependant bien remarquable, dit le savant. Juste une année après, l'ombre revint. Comment allez-vous? Demanda-t-elle. Hélas, j'écris sur le vrai, sur le beau et sur le bon, mais personne n'y fait attention. J'en suis au désespoir. Vous avez tort. Regardez-moi, j'engraisse, et c'est ce qu'il faut. Vous ne connaissez pas le monde. Je vous conseille de faire un voyage, encore mieux, comme j'ai l'intention d'en faire un cet été. Si vous voulez m'accompagner en qualité d'ombre, vous me ferez grand plaisir. Je paye le voyage. Vous allez trop loin. C'est selon. Je vous assure que le voyage vous fera du bien. Soyez mon ombre. Vous n'aurez rien à dépenser. C'en est trop, dit le savant. Il est ainsi du monde, et il en sera toujours ainsi, repartit l'ombre en s'en allant. Le savant se trouva de plus en plus mal à force d'ennui et de chagrin. Ce qu'il disait de vrai, de beau et de bon produisait sur la plupart des hommes le même effet que les roses sur une vache. « Vous avez l'air d'une ombre, » lui dit-on, et cela le fit frémir. « Il faut que vous alliez prendre les bains, » lui dit l'ombre qui était revenu le voir. « C'est le seul remède. Je m'y rendrai avec vous, car ma barbe ne pousse pas bien, et c'est une maladie. Il faut toujours avoir de la barbe. Je paye le voyage. Vous en ferez la description, et cela m'amusera chemin faisant. Soyez raisonnable et acceptez mon offre. Nous voyagerons comme d'anciens camarades. » Ils se mirent en route. L'ombre était devenu le maître, et le maître était devenu l'ombre. Partout ils se suivaient à se toucher, par devant ou par derrière, suivant la position du soleil. L'ombre savait toujours bien occuper la place du maître, et le savant ne s'en formalisait pas. Il avait bon cœur, et un jour il dit à l'ombre, « Puisque nous sommes des compagnons de voyage, et que nous avons grandi ensemble, « tutoyons-nous, c'est plus intime. »« Vous parlez franchement, » repartit l'ombre, ou plutôt le véritable maître. « Moi aussi je parlerai franchement. En qualité de savant, vous devez savoir combien la nature est étrange. Il y a des personnes qui ne peuvent toucher un morceau de papier gris sans se trouver mal. D'autres frémissent en entendant frotter un clou sur un carreau de vitre. Quant à moi, j'éprouve la même sensation à m'entendre tutoyer. Il me semble que cela me couche par terre comme au temps où j'étais votre ombre. Vous voyez que chez moi, ce n'est pas fierté, mais sentiment. Je ne peux pas me laisser tutoyer par vous. Mais je vous tutoierai. Ce sera la moitié de ce que vous désirez. » Dès ce moment, l'ombre tutoya son ancien maître. C'est trop fort, pense à celui-ci. Je lui dis vous, et il me tutoie. Néanmoins, il prit son parti. Arrivés au banc, ils rencontrèrent une grande quantité d'étrangers, entre autres, une belle princesse affectée d'un mal inquiétant. Elle voyait trop clair. Il remarqua bientôt l'ombre parmi tous les autres. Il est venu ici pour faire pousser sa barbe, à ce qu'on dit. Mais la véritable cause de son voyage, c'est qu'il n'a point d'ombre. » Prise de curiosité, elle entama conversation dans une promenade avec cet étranger. Comme princesse, elle n'avait pas besoin de faire beaucoup de façons, et elle lui dit, « Votre maladie est de ne pas produire d'ombre. » « Votre Altesse royale se trouve heureusement bien mieux, » répondit l'ombre. Elle souffrait de voir trop clair, mais maintenant elle est guérie, car elle ne voit pas que j'ai une ombre, et même une ombre extraordinaire. Voyez-vous la personne qui me suit continuellement? Ce n'est pas une ombre commune, de même qu'on donne souvent pour livrer à ses domestiques du drap plus fin que celui que l'on porte soi-même. Ainsi j'ai paré mon ombre comme mon homme. Je lui ai même donné une ombre. Quoi qu'il m'en coûte, j'aime avoir des choses que les autres n'ont pas. Quoi, pensa la princesse. Est-ce que vraiment je serai guérie? Il est vrai que l'eau, dans le temps où nous vivons, possède une vertu singulière, et ses bains ont une grande réputation. Cependant, je ne les quitterai pas encore. On s'y amuse parfaitement, et ce jeune homme-là me plaît, pourvu que sa barbe ne pousse pas, car elle s'en irait. Le soir, la princesse dansa avec l'ombre dans la grande salle de danse. Elle était bien légère, mais son cavalier l'était encore davantage. Jamais elle n'en avait rencontré un pareil. Elle lui dit le nom de son pays, et lui le connaissait bien, car il y avait regardé par les fenêtres. Il raconta même à la princesse des choses qui le tenèrent on ne peut plus. Certes, c'était l'homme le plus instruit du monde. Elle lui témoigna peu à peu toute son estime, et en dansant encore une fois ensemble, elle trahit son amour par des regards qui semblaient le pénétrer. Néanmoins, comme c'était une fille réfléchie, elle se dit « Il est instruit, c'est bon, il danse parfaitement, c'est encore bon, mais possède-t-il des connaissances profondes? C'est ce qu'il y a de plus important. Je vais l'examiner un peu à ce sujet. » Et elle commença à l'interroger sur des choses tellement difficiles qu'elle n'aurait pu y répondre elle-même. L'ombre fit une grimace. « Vous ne savez donc pas répondre ?» dit la princesse. « Je savais tout cela dans mon enfance, » répondit l'ombre, « et je suis sûr que mon ombre, que vous voyez là-bas devant la porte, y répondra facilement. Votre ombre, ce serait bien étonnant. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais je le crois, puisque elle m'a suivi, écouté pendant tant d'années. Seulement, votre Altesse royale me permettra d'appeler son attention sur un point tout particulier. Cette ombre est tellement fière d'appartenir à un homme que, pour la trouver de bonne humeur, ce qui est nécessaire pour qu'elle réponde bien, il faut la traiter absolument comme un homme. « Je l'approuve, » dit la princesse. Puis elle s'approcha du savant pour lui parler du soleil, de la lune et de l'homme sous tous les rapports. Il répondait convenablement et avec beaucoup d'esprit. « Quel homme distingué, » pensa-t-elle, « pour avoir une ombre aussi sage. Ce serait une bénédiction pour mon peuple si je le choisissais pour époux. » Bientôt, la princesse et l'ombre arrêtèrent leur mariage. Mais personne ne devait le savoir avant que la princesse fût de retour dans son royaume. « Personne, pas même mon ombre, » dit l'ombre qui avait ses raisons pour cela. Lorsqu'ils furent arrivés dans le pays de la princesse, l'ombre dit au savant, « Écoute, mon ami, je suis devenu heureux et puissant au dernier point, et je veux maintenant te donner une marque particulière de ma bienveillance. Tu demeureras dans mon palais, tu prendras place à côté de moi dans ma voiture royale, et tu recevras 100 000 écus par an. Cependant, j'y mets une condition, c'est que tu te laisses qualifier d'ombre par tout le monde. Jamais tu ne diras que tu as été un homme, et une fois par an, lorsque je me montrerai au peuple sur le balcon éclairé par le soleil, tu te coucheras à mes pieds comme une ombre. Il est convenu que j'épouse la princesse, et la noce se fait ce soir. » Non, c'en est trop, s'écria le savant. Jamais je ne consentirai à cela. Je détromperai la princesse et tout le pays. Je veux dire toute la vérité. Je suis un homme, et toi, tu n'es qu'une ombre habillée. Personne ne te croira. Sois raisonnable, j'appelle la garde. Je vais de ce pas trouver la princesse. Mais moi, j'arriverai le premier, et je te ferai jeter en prison. » Puis, l'ombre appela la garde, qui obéissait déjà au fiancé de la princesse, et le savant fut amené. « Tout tremble, » dit la princesse en revoyant l'ombre. « Qu'y a-t-il donc? Prends garde de tomber malade le jour de ta noce. Je viens d'essuyer une scène cruelle. Mon ombre est devenue folle. Figure-toi qu'elle s'est mise en tête qu'elle est l'homme et que moi, je suis l'ombre. C'est terrible. J'espère qu'on l'a enfermée.
Sans doute. Je crains qu'elle ne se remette jamais.
Pauvre ombre, dit la princesse, elle est bien malheureuse. Ce serait peut-être un bien fait que de lui ôter le peu de vie qui lui reste. Oui, en y songeant bien, je crois nécessaire d'en finir avec elle secrètement.
C'est une affreuse extrémité, répondit l'ombre en ayant l'air de soupirer. Je perds un fidèle serviteur.
Quel noble caractère, pensa la princesse.
Le soir, toute la ville fut illuminée. On tira le canon. Partout retentissaient la musique et les chants. La princesse et l'ombre se montrèrent sur le balcon, et le peuple, enivré de joie, cria trois fois hurrah. Le savant ne vit rien, n'entendit rien, car on l'avait tué. Fin de l'ombre par Hans Christian Andersen. Fin de Il était une fois, volume 3, par des auteurs variés.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.